Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Deux Salles Deux Ambiances. Je suis Inès.
Et je suis Gabrielle, et aujourd'hui on va vous parler de Bandit Like Beckham de Gurinder Chadha.
Cette version est sans spoil, donc vous avez l'habitude maintenant. Ça veut dire qu'on ne figure les informations qui ne sont qu'au trailer. Si vous voulez des arguments plus complets et plus d'arguments même en fait, plus de parties, plus de contenu, c'est dans la version complète qui est déjà disponible sur notre profil.
C'est ça.
Allons-y.
Let's go. Bandit Like Beckham, autrement appelé en français Joue-la comme Beckham, est un film sorti en 2002, réalisé par Gurinder Chadha et écrit par Gurinder Chadha, Paul Maeda Burgess et Gurjit Bindra. On y retrouve Jess Minder, surnommé Jess, joué par Parminder Nagra, qui se lie d'amitié avec Jules, joué par Keira Knightley, et qui rejoint une équipe de foot féminin contre les souhaits de ses parents.
Le film se présente comme un coming of age axé sur le foot et la représentation indienne, plus précisément Punjabi Sikh, à Londres. Gurinder Chadha s'est inspiré librement de sa vie et de ses expériences pour réaliser de manière générale toute sa filmographie, mais plus particulièrement ce film-là. Alors, avant de commencer, pour le film, trigger warning pour de la lesbophobie et des enjeux racistes.
Du coup, commençons le récap. Alors, Jess Minder, Jess Bamra, est une jeune fille d'origine Punjabi Sikh qui vit à Londres avec ses parents. Elle adore le football.
Comme Gabrielle.
Oui. Et plus particulièrement, très fan de David Beckham.
Elle a dans sa chambre un énorme poster de David Beckham au-dessus de son lit. Et en fait, vous savez, c'est les chambres sous les toits.
C'est ça.
Et donc, elle a son grand poster en plus, du coup, qui est penché vers elle.
Vers son lit.
Et c'est David Beckham dans une de ses versions les moins belles. Parce qu'il est chauve.
Il est chauve.
Il est en noir et blanc et on voit que sa tête en fait. Ça fait.
Il fait très peur.
C'est un peu Murdoch dans Ant-Man.
Oh mon dieu, non.
C'est bon, tu vas le voir parce que c'est genre Star Wars. Hein. En fait, c'est Star Wars version Ant-Man.
Tu vois, si je voulais voir Star Wars, je regarderais Star Wars. Je regarderais pas Star Wars version Ant-Man. Mais du coup, je suis bien d'accord, il est vraiment. Surtout qu'on voit qu'il y a d'autres petits posters où il est dans sa era. Avec les cheveux blonds, là, voilà, la coupe bien...
Bien de footballeur.
Bien de footballeur à cette époque. Et il est beaucoup plus beau. Enfin, genre, il a toujours un peu une tête de footballeur, quoi. C'est pas non plus le meilleur look du monde. Mais il fait très peur, chauve. Et du coup, moi, je suis d'accord avec sa mère qui dit « Arrête de penser à ce skinhead, parce que c'est un peu ça. Il y a juste une tête géante d'un homme blanc chauve sur son mur. »
En plus, il est encore plus haut parce qu'il est en noir et blanc. Donc
c'est horrible.
Mais pour en revenir au film, les parents de Jess ne la soutiennent pas du tout dans son amour du foot et ils aimeraient qu'elle continue des activités beaucoup plus féminines mais surtout plus traditionnellement indiennes. Donc la cuisine et le mariage.
Mais cependant, elle joue parfois dans le parc avec des garçons, ses potes. Au début du film, sa famille est très occupée par les fiançailles de sa sœur Pinky, jouée par Archi Punjabi.
Dans le film, on voit que Jess rencontre Jules et elle joue dans la même équipe de foot.
Et la mère de Jules est convaincue que Jess et Jules sont en couple. Mais Jules le nie.
Et ça, c'est un débat qu'on aura dans la version complète.
Voilà.
Donc, si c'était ça qui vous intéresse,
faut aller écouter l'autre version.
Voilà, le drama se passe ailleurs. Dans le trailer, on voit aussi le père de Jess qui lui dit qu'il ne veut pas qu'elle souffre comme lui.
Mais qu'il accepte son désir de voler de ses propres ailes. On voit que genre deux phrases, un truc du genre dans le trailer, mais son speech.
Ça, c'est un speech qui revient deux, trois fois dans le film.
Mais en fait, c'est genre des versions différentes selon son opinion à ce moment-là. Mais du coup, la partie qu'on voit dans le trailer qui lui fait « I want you to fight », incroyable. Moi, j'étais émue. J'ai pas pleuré, mais j'étais émue quand même.
Je sais plus si j'ai pleuré pour ce film.
Mais genre, voilà, il y a des petits moments dans le film qui sont quand même émouvants et on voit des petits moments dans le trailer. C'est un bon film, allez le voir. Et puis aller écouter notre version avec spoil après.
Voilà, je suis d'accord. Le film a un budget estimé de 3,5 millions de pounds pour une recette au box-office mondial estimée à 67 millions de dollars. Maintenant, il faut convertir et donc ça fait à peu près 46 millions de pounds. C'est le plus gros film britannique après Slumdog Millionaire qui n'était pas encore sorti à l'époque.
Et aussi, c'est le premier film occidental à être sorti en Corée du Nord.
D'ailleurs, dans le trailer version américaine, ils ont doublé et ils ont, au lieu de dire football, ils ont dit soccer. Parce qu'aux États-Unis, on dit soccer pour dire notre foot.
Voilà.
Et football américain. Mais donc, moi, je trouve que c'est la honte.
Je trouve que c'est la honte. Et en plus, de base, ils voulaient changer le titre aux États-Unis. Parce que du coup, ils se sont dit personne connaît David Beckham. Donc on va appeler le film Move It Like Mia. Du coup, Mia Hamm, qui est une grande joueuse de foot féminin aux États-Unis. Et la réalisatrice, elle a dit non, c'est David Beckham, c'est pas non plus mais genre le plus, mec qui joue dans qui
qu'est-ce
joue dans
qu'ils auraient fait du coup, ils auraient CGI les posters de Mia.
Mais je sais pas, ça me sent genre déjà ils sont doublés le très mal d'ailleurs le mot football. Et puis en plus ils allaient faire quoi? Ils allaient mettre une tête géante de Mia Hamm dans son truc, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué pour beat the allegations of à ce moment-là, mais bon. Après, j'avais bien des posters de Mia.
Bah, du coup, ça aurait pu marcher sans le CGI. Mais après, c'est pas du coup la personnage principale.
Voilà, et du coup, je trouve que ça n'aurait pas eu de sens du tout. Enfin, et elle avait raison de dire non. Enfin, je veux dire, la meuf, les fans de David Beckham, ils auraient fait quoi si le film s'appelait Move It Like Mia, mais elle parle que de David Beckham pendant le film.
Et à la fin...
Mais à la fin, quelque chose, ça n'aurait pas eu de sens. Et au début non plus, du coup. Mais voilà.
Il aurait fallu tourner un autre film, quoi.
Voilà, il nous fait fumer la version américaine avec Mia Hamm, du coup. Par ailleurs, Parminder Nagra, qui joue Jess, a reçu le trophée FIFA de la personnalité de l'année en 2002, donc devant des footballeurs.
Comme Zinedine Zidane.
Exactement. Le premier ministre anglais Tony Blair a même écrit une lettre de soutien au film en disant que ça représentait l'Angleterre moderne. Est-ce que t'as vu le tweet qui disait, je crois que c'était pendant le Covid ou un truc du genre, il y a quelqu'un qui avait posté, t'as vu Love Actually?
Oui.
Tu vois, donc c'était une photo de Hugh Grant dans Love Actually, et la personne disait, lui il aurait bien géré la crise Covid, un truc du genre, tu sais, genre voilà. Et il y a quelqu'un qui a répondu, on va ignorer ce qu'il a fait en Irak, et la personne a dit, Hugh Grant n'a pas envahi l'Irak, et la personne a fait, pardon, j'ai cru que c'était Tony Blair. Et ça me fait trop rire, ce tweet, cet échange m'a fait beaucoup rire.
Mais là, quand j'ai vu ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a foutu en Irak?
Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur Tony Blair. Que c'était pas Hugh Grant.
Et Tony Blair, on le voit dans la nouvelle saison de The Crown sur Netflix.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Et on voit sa montée de popularité et sa chute. Mais ils expliquent jamais pourquoi il a perdu de sa popularité.
Non, mais de toute façon, les ministres anglais, ils sont toujours là pour ne pas être populaires, donc voilà, on peut relate après tout.
Sur IMDB, il a une note de 6,7 sur 10 et sur Allociné de 3,7 sur 5.
Est-ce que je peux juste faire un commentaire sur les notes, là? IMDB, c'est quoi votre problème? Est-ce qu'encore 3,7 sur 5, ça passe?
Oui.
Mais 6,7, vous abusez. Je suis d'accord, mais
en fait, je pense que c'est parce que c'est un truc qui est plutôt dirigé pour des meufs. Enfin non, en vrai le film honnêtement, je pense qu'il est tout public, il est pas du tout genré, mais souvent quand c'est une meuf en rôle principal, c'est censé être pour une meuf,
ouais.
Ce qui est stupide.
Oui.
Et les trucs qui sont genrés féminins, ils sont toujours moins bien notés.
Ouais.
On se demande pourquoi.
Ça les racisé,
ça. C'est ça.
C'est beaucoup là. En plus, ça part de foot féminin.
Et qu'il y a un petit peu, et ça c'est un des aspects qu'on critique dans la version complète, une vibe de rom-com. Genre le film, il y a une histoire d'amour et tout dedans. Et du coup, ça fait vraiment chick flick, quoi.
Ouais.
Et donc ça, c'est moins de 7, forcément, dans les notes. Ouais. Ce qui est stupide, parce que c'est vrai que moi, je le mettrais un 7,5 hein, sur IMDB. Je trouvais que c'est la note...
C'est un bon film.
Voilà. C'est pas un spoil des notes qu'on donnera.
Non.
Mais...
Je m'attendrais à avoir une meilleure note sur IMDB. C'est ça,
même un 7,... En fait, au moins 7.
Ouais.
Tu vois, un 7,1, j'aurais dit, bon, c'est un peu bas, mais voilà. Mais ouais, 7,4, 7,5, c'est...
Voilà, alors pour une fois, ils ont raison.
C'est ça. La réalisatrice l'a également adapté en comédie musicale, avec Nathalie Dieu dans le rôle de Jess, mais aussi et surtout, Jamie Campbell-Bower dans le rôle de Joe, c'est le coach sportif, qui joue dans The Mortal Instruments. Et ce qui est marrant, c'est que dans le film, ce rôle est joué par...
Jonathan Rhys-Meyers.
Exactement. Qui, lui, joue Valentine dans The Mortal Instruments. Donc...
Voilà, ce sera un segue pour notre prochain épisode.
Peut-être qu'ils en ont parlé, hein, parce que la comédie musicale, elle est sortie en 2015.
C'est vrai, 2015, ouais.
Donc probablement qu'ils se sont envoyés des petits SMS après.
En mode, haha, tu joues mon rôle.
Voilà.
Et j'ai envie de dire, et ça c'est plus un truc personnel pour moi, parce que tu l'avais pas vu toi, mais je trouve que c'est quand même un film que t'as vu quand t'es enfant. Souvent, genre les gens ils disent, ah ouais, c'est un film de mon enfance. Pour moi, c'est totalement le cas, puisque je l'ai en DVD. Et je parlais avec un de mes potes hier, et il m'a dit, ouais, moi aussi, c'est un des films de mon enfance. Et j'ai parlé à d'autres gens qui sont fans de foot féminin, donc c'est peut-être un groupe biaisé, mais qui m'ont dit, elle aussi, ouais, c'était un film de mon enfance. Et du coup, je pense que peut-être en Angleterre, c'est plus le cas. Il y a des joueuses aussi, genre, qui sont professionnelles aujourd'hui, qui ont dit « Ah ouais, c'est un film que j'ai vu quand j'étais petite, ça m'a donné envie de continuer le foot ou de jouer au foot. » Et voilà, donc je pense que, mis à part genre des questions d'argent ou quoi, l'influence que ça a sur le public visé, donc des jeunes, elle était non négligeable.
Je suis d'accord avec toi, Gabrielle.
Voilà.
Même si moi, je ne l'ai jamais vu, j'en avais jamais entendu parler.
Ça, c'est une honte.
Je t'ai dit, on fait le podcast pour combler
pour connaître
ma...
mais quand même.
Culture cinématographique. Deux salles, deux ambiances. Non, c'est une salle de classe pour Inès avec Gabrielle en prof.
Voilà, mais du coup, toi, tu es une meuf des grandes séries, dont on ne parlera pas tout de suite, mais et moi, je t'offre un classique du cinéma anglais.
Je vais t'offrir des trucs très très bien.
Ouais.
Good Omens, par exemple.
Oui. Donc justement, dans cet épisode, comme c'est une version sans spoil, il y aura plus de choses dans la version complète, mais du coup, dans cette version-là, sans spoil, on va parler d'abord de l'expérience d'enfants issus de l'immigration, et ensuite, on parlera du foot comme sport populaire. Du coup, ce sera juste une partie où je vais raconter ma vie, et Inès va gentiment écouter et faire...
Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que le hors-jeu, on vous apportera la réponse dans cet épisode.
Oui.
Si vous vous demandez... d'autres choses sur le foot, probablement qu'on va vous donner la réponse dans cet épisode.
Voilà, je vais faire un cours de foot, du coup passons.
Donc on passe à la première partie. Ok, du coup alors on commence avec la première partie sur l'expérience des enfants issus de l'immigration. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on est des enfants issus de l'immigration.
Voilà.
Second generation, comme on nous appelle. Parce que pour ceux qui se posent des questions, parce qu'on s'est posé la question il y a exactement 5 minutes. En fait, first generation, c'est ceux qui arrivent, ceux qui sont pas nés en France, du coup. Et second generation, c'est ceux qui sont nés en France.
C'est ça.
Mais dont leurs parents ne sont pas nés ici.
Et voilà.
Donc c'est nous.
Du coup, c'est nous.
Mais du coup, dans le film, le personnage principal, c'est aussi une jeune fille issue de l'immigration.
Ses deux parents, du coup, sont Punjabi Sikh, donc indiens. Son père, il mentionne avoir vécu au Kenya, qui est du coup basé sur le fait que la réalisatrice, sa famille venait du coup d'une diaspora Punjabi Sikh au Kenya aussi. Donc voilà, ça s'est basé sur sa vie à elle aussi.
Et je pense que ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit beaucoup la pression des aînés, mais du coup pas à travers le personnage principal, mais par rapport à sa grande sœur. Parce qu'elle, donc elle a une grande sœur. C'est vrai que quand on est l'aîné, on porte un petit peu tous les espoirs de la famille, parce qu'on est le premier enfant à être né sur le nouveau territoire. Souvent, on est le premier enfant à être allé dans des niveaux de scolarité plus élevés. Donc peut-être le premier enfant à avoir eu son baccalauréat, la première personne de la famille à être allée à l'université. Mm-hmm. Et on porte beaucoup...
les espoirs.
C'est ça, les espoirs, et aussi la continuation de la culture, à travers notamment le mariage, avoir des enfants, continuer le nom de famille.
C'est ça. Enfin, pas continuer le nom de famille, du coup, avec des filles, mais oui.
Oui, oui, oui. Mais...
continuer la famille.
C'est ça, le lien du sang. Et c'est ce qu'on voit un petit peu en transparence dans le film avec le personnage de Pinky, la sœur de Jess. Et c'est aussi pour ça que Jess a plus de liberté.
Oui, parce que si elle avait été la fille aînée, c'est sûr qu'elle n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit de base. Genre, il ne l'aurait jamais laissé jouer au foot au parc non plus.
Et en fait, elle aurait même pas voulu, parce qu'il y a un petit peu ce truc où elle se serait restreinte elle-même, parce qu'elle aurait été l'espoir de la famille. Et c'est ce que Pinky lui dit. Pinky, elle ne comprend pas sa sœur et son désir de liberté, parce qu'elle, elle ne se serait jamais autorisée à penser plus loin que le mariage et respecter les traditions familiales.
Même si du coup, Pinky, elle a sa propre personnalité. Elle n'existe pas comme un cliché de la femme hyper traditionnelle, conservatrice, etc. Non, elle a sa propre personnalité. Elle a sa propre personnalité en tant que personne anglaise d'origine indienne. Elle a un autre mélange, en fait, de ces deux parties-là
en fait,
d'elle-même.
Elle voit la culture anglaise un petit peu comme un moyen détourné.
Voilà.
De combiner les deux, parce que donc elle le dit, en fait, tu peux avoir plein de liberté, mais tu dois le faire discrètement, de manière cachée. Et donc, elle aussi, voilà, elle aime beaucoup les vêtements, elle aime beaucoup le maquillage, elle a un style très des années 2000, qui est pas forcément, enfin, qui est pas du tout même traditionnel... indien, et elle a des centres d'intérêt qui peuvent paraître plus superficiels aux yeux de ses parents, mais comme elle ne les force pas au regard de sa famille et de sa communauté, c'est plus acceptable.
Ouais, et c'est quelque chose de personnel, entre guillemets, parce que du coup, le problème avec jouer au foot, et c'est ce qu'elle dit un peu la mère de Jess, c'est qu'elle est sous le regard de tout le monde. Alors que Pinky, même si elle genre, se balade dans la rue, elle est sous le regard de tout le monde, c'est pas la même chose.
Oui,
genre,
si elle écoute les Backstreet Boys dans son Walkman.
C'est ça.
Personne ne va la calculer. Alors que ouais, Jess, ces centres d'intérêt ont vocation à être vus par tous.
C'est ça.
Si Jess, elle adorait le foot, mais sans en pratiquer, juste elle regardait des matchs dans sa chambre,
ce serait autre chose.
Pas de problème, parce que même, elle s'habille de manière plus masculine, entre guillemets, et elle s'habille souvent avec des vêtements de foot. Et ça, c'est critiqué par les parents, mais c'est pas le gros point.
C'est ça. Donc pour parler de la communauté, Jess, elle habite à Hounslow, qui est du coup une... je sais pas si c'est une banlieue, mais en tout cas, c'est un endroit dans Londres, ou
un peu excentré, de Londres, peut-être, ouais.
Voilà. Du coup, qui est proche de l'aéroport, donc Heathrow. Du coup, cette partie-là de la ville, dans la vraie vie, il y a beaucoup de diaspora d'Asie du Sud.
Un peu comme Gare du Nord à Paris.
C'est ça. Je veux dire, c'est genre 53% blanc et le reste, du coup, non.
Ouais.
Voilà, et du coup, ça, on le voit très vaguement dans le film, voilà. Mais en gros, on est toujours dans ce contexte-là. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément si on ne connaît pas trop la ville, mais voilà, donc on est vraiment au sein d'une communauté, elle est entourée de ces personnes, elle n'est pas isolée, c'est pas Marly Gaumont, quoi.
Et c'est ce qui... c'est ce qui exacerbe les craintes de ses parents d'être vus par la communauté, parce qu'ils sont dans cette bulle.
Oui,
où,
c'est ça.
En fait, tout le quartier, c'est des gens de la communauté. Les voisins, si elle sort, elle va être vue par des gens qui vont, après, au temple, aller dire à ses parents « Ah, j'ai vu ta fille !» Et donc, c'est pour ça qu'ils ont peur encore plus. Alors que s'ils étaient, ouais, dans un petit...
milieu où ils étaient, je sais, dans un petit village, où il n'y avait que des Blancs, que des Chrétiens, où ils se sentaient obligés de s'intégrer pour appartenir... ça aurait été différent, ça aurait pas été
positif
du tout, parce que c'est pas agréable d'être isolé.
Par exemple, des discussions qui auraient été, quand on va voir la famille, quand on va se déplacer pour une fête familiale, quand on va au temple, s'il te plaît, habille-toi, nanana. Et ça aurait été plutôt dans ce type-là, parce que c'est toujours le regard des autres.
C'est ça. Mais du coup, là, c'est vraiment, elle est entourée par cette culture, quand elle se balade,
Et pour bien comprendre l'importance du regard des autres dans des communautés comme ça, racisées, c'est important parce qu'en fait, quand on est dans un pays qui ne connaît pas, et donc qui par essence nous rejette, parce qu'on rejette toujours l'inconnu, d'une échelle de degrés différente, hein, mais voilà. Si on se fait aussi rejeter par sa propre communauté, si on est rejeté par les deux, on se sent extrêmement seul.
Oui.
Et donc il y a cette peur en fait de la solitude, et c'est ce que beaucoup d'enfants issus de l'immigration ressentent, de n'appartenir ni à la communauté de leurs parents, ni au pays dans lequel ils sont nés, dans lequel ils évoluent, parce qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises.
Ouais, et que finalement ils finissent par tomber.
C'est ça. Et donc les parents, ce qu'ils veulent, c'est protéger à tout prix leurs enfants, mais aussi se protéger eux-mêmes.
C'est ça. C'est quelque chose qui est aussi très présent dans le film, parce qu'un des trucs qu'ils reprochent à Jess, c'est le fait qu'elle ne veut pas cuisiner les plats...
Alou Gabi.
Voilà, sa mère lui dit, tu ne sais même pas cuisiner du dal. Genre, des choses comme ça, donc...
C'est un plat avec des lentilles, non?
C'est ça.
Mais donc oui, ça a une place qui est centrale, parce que c'est une activité qui est féminine et traditionnelle. Et qui sert aussi à se lier en fait entre les générations, parce que la génération des parents, elle comprend pas nécessairement le foot, c'est pas quelque chose qui les touche particulièrement, et donc ça permet voilà, de se lier avec leur fille.
Oui, c'est un grand moment de communauté aussi, juste de cuisiner, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait pendant une fête avec la famille? On sert à graille. Mais quand même, on le voit dans le film, on le voit dans le trailer du coup un tout petit peu, dans les scènes où Jess... participe à des
activités traditionnelles.
C'est ça, donc dans les fêtes surtout. Moi, en tout cas, j'avais l'impression, en tant que spectatrice, que malgré les critiques qu'on voit que la réalisatrice a, et qu'elle a déjà exprimé aussi dans des interviews et tout, ça se voit qu'elle apprécie quand même sa culture. Et qu'elle arrive à la représenter de manière à montrer son amour pour la culture punjabisique. Et on voit, enfin, je veux dire, même quand... Enfin, surtout dans la scène du mariage, qu'on voit un peu genre dans les danses et tout ça, enfin, c'est beau, enfin, je veux dire...
Et il n'y a jamais de moment où on tourne en ridicule la culture pour que les arguments de Jess pour participer au foot et tout marchent mieux. C'est toujours, en fait, on comprend le point de vue des parents, on comprend bien sûr le point de vue de Jess et on adhère aux idées de Jess parce que c'est le personnage principal et bah aussi parce que probablement enfin nous on est on peut plus facilement s'identifier à elle mais peut-être que des personnes qui sont dans des familles plus traditionnelles ou qui sont pas enfin des personnes indiennes qui habitent en Inde ou quoi peut-être qu'ils s'identifieraient beaucoup plus aux parents enfin je sais pas mais donc même là-dedans il y a toujours un grand respect envers la culture indienne.
Je pense que c'est ça, c'est vraiment c'est le respect des événements, de la culture, des vêtements, de la musique, surtout de la musique, Donc dans le trailer, évidemment, on voit pas trop la musique, mais il y a un vrai travail de la musique dans le film. Et ça, c'est très important aussi. Ça veut dire que ça se voit qu'elle va pas faire tout ce qui est indien et ridicule. On n'est pas en train de regarder...
Et elle le dit pas, elle le dit pas, oh c'est nul et tout. Et même, elle dit pas, j'ai pas envie d'apprendre à cuisiner parce que c'est nul, j'aime pas ce que tu manges, moi voilà. Je vais manger du fish and chips.
C'est ça.
Elle dit juste, j'ai pas le temps parce que moi je veux faire du foot.
C'est ça. Ça c'est important parce que, comme on en avait parlé avant, enfin pas sur le podcast mais quand on avait discuté du film avant, on n'est pas en train de regarder qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
C'est ça.
Quand il y a des blagues sur le comportement des personnes traditionnelles, des vieilles personnes de la communauté, c'est pas des blagues racistes quoi. On n'est pas là pour faire... ils sont chelous là-bas, genre c'est des blagues qu'on sent qu'elles sont faites avec amour, elles sont faites avec respect, avec amour. On sent que vraiment, elle respecte sa famille, elle respecte sa communauté, et ça c'était bien dans le film.
Et que Jess aussi respecte sa famille et sa communauté.
C'est ça. Et ça j'aurais quelque chose en plus à dire sur ça dans la version complète, mais je crois que c'est tout.
Oui, je pense qu'on a fait le tour sur cette expérience qu'on a détaillée, mais qui est vraiment typique des enfants issus de l'immigration. Et je pense qu'on peut passer à la deuxième partie, qui est le foot comme un jeu populaire.
Du coup, maintenant, on commence avec le foot comme sport populaire. Il y a quelque chose à dire. Inès, je pense que tu ne réalises pas. La boîte de Pandore que tu as ouverte en m'autorisant à parler de foot. Et vous ?
Mais Gabriel, tu me parles déjà de foot tout le temps.
Tu n'as aucune idée
pour venir de me raconter les dramas dans les équipes de foot féminin.
Écoute, et encore c'est des petits dramas, enfin je te raconte quand je suis saoulée par telle ou telle joueuse. Oui, c'est généralement du racisme. C'est d'ailleurs un des trucs dont je vais parler après.
Mais plus dans la version complète.
Voilà, exactement. Et du coup, passons.
Il n'y a pas que Gabriel qui aime le foot, il y a aussi la réalisatrice, parce qu'on voit dans le film, donc on a dit une grande appréciation pour la culture indienne, mais il y a aussi un grand amour du foot féminin et de l'esprit d'équipe, de camaraderie. Les matchs, comment c'est tourné, c'est très années 2000.
Ouais.
Et c'est hyper fun, en fait. Je trouve qu'on ressent la joie de vivre et on ressent l'excitation d'un match.
Ouais.
En tant que joueuse, parce qu'on est très proche. Donc
ouais, c'est pas filmé comme un match de foot, c'est vraiment filmé dans l'action.
Ouais.
Et dans l'émotion aussi. Et ça, c'était... on ne voit pas tant que ça dans le trailer, mais je pense que c'est juste un truc général, hein, sans spoil. Il y a du foot dans le film, voilà, je veux pas, hein.
Le film s'appelle Frappe...
Frappe enroulée.
C'est quoi une frappe enroulée ?
Vas-y, alors, dis-moi. Ok. Donc, ça peut être sur un coup franc, mais ça peut aussi être dans le jeu.
Ok.
Ouais. En gros, quand tu frappes le ballon, tu mets ton pied à un certain angle sur le ballon, et en gros, elle va courber.
Ok.
Et donc, en gros, ça sert à dévier des obstacles. Donc
Et puis aussi à faire une feinte aussi pour le gardien, non ?
C'est ça, parce que tu sais pas exactement, c'est un peu comme une curveball au baseball,
okay.
Tu sais pas exactement où est-ce qu'elle va atterrir. Et du coup, c'est un truc qui arrive, hein. C'est pas hyper rare une frappe enroulée dans le foot, et du coup c'est ça, c'est juste ça.
Ok, mais il faut le savoir.
Il faut le savoir, parce que j'avais oublié comment ça s'appelait, genre je savais ce que c'était une frappe enroulée, mais j'avais oublié que c'était ça le terme équivalent, mais du coup j'ai eu un petit bug, j'ai fait les recherches pour pouvoir expliquer à Inès... qui est du coup ma disciple aujourd'hui sur le foot.
Exactement.
Parce que c'était une frappe enroulée.
Comme on vous a dit qu'on vous expliquera, on vous expliquera le hors-jeu, parce qu'il explique dans le film.
Il
l'explique. On le voit dans le trailer.
Avec des condiments.
C'est ça. Mais en fait, est-ce qu'il cherche à expliquer le hors-jeu ou pas ? Parce que c'est ce qu'il explique, mais j'ai pas l'impression que dans le dialogue, c'est ce qu'il
si,
veut
si,
dire.
Si, si,
si. Ok.
Oui, oui, il l'explique.
Et parce qu'il dit pas hors-jeu. Enfin, il dit...
Si, si, il fait offside, onside. Offside, okay, okay. Onside. Offside, onside. Et là, ouais. Il l'explique. Du coup, est-ce que toi, t'as besoin que je te l'explique ? Toi, tu connais
non,
le hors-jeu ?
Non, tu me l'as déjà expliqué, j'ai compris. On n'a pas le droit d'être derrière le dernier défenseur.
C'est ça. Enfin, ou le dernier joueur, hein, c'est pas forcément un défenseur.
Oui, voilà.
Mais genre la dernière personne.
De
voilà. Voilà. Dans la parallèle de
quand
formé par ce...
Quand tu tires, il
voilà.
Faut être devant.
Quand le ballon et quand la passe est faite, donc quand le ballon tape, t'as pas le droit d'être derrière. Et là, t'es hors-jeu.
Et c'est ce qu'on a vu. À la Coupe du... C'était pas la Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde.
Oui, c'est la Coupe du Monde, mais du coup, c'était pas hors-jeu, c'était pour
okay,
que okay, le but,
oui,
il compte.
Oui, ouais.
C'était le cul... Pardon.
Le fessier.
Le fessier de notre cher Raphaël Varane.
Qui est excessivement beau.
A gardé le ballon en jeu avec son cul, malheureusement, parce que la ligne formée par ses fesses
était
protégée le joueur.
Oui, oui.
Mais c'est toujours en mode je comprends pas le hors-jeu. Genre, c'est vraiment la blague. Mais
moi,
du coup,
je l'ai appris
tu sais
grâce
ce que
à toi.
C'est parce que je suis là pour enseigner le foot, je suis là pour partager.
Mais le foot, c'est le partage.
Exactement,
c'est ça. Et c'est ça ce qu'on voit dans le film.
Et c'est pour ça que c'est essentiel de parler de diversité dans
mais
le foot.
Mais parce que justement aussi, En gros, c'est un truc qui est très féminin. Girl power, les filles qui
girl
se soutiennent. Enfin, voilà quoi. Et being girl's girl, tu vois, genre c'est... Voilà. Ouais. Et ça, c'est encore plus marqué par le fait qu'elle soit dans une équipe qui joue donc au même jeu. Il y a un adversaire et tout. Enfin, voilà. Et le jeu, c'est le foot. Et qui se prête le mieux en plus à ce truc. Et ça montre vraiment les liens qui les lient entre elles en tant que... coéquipière, en tant que coéquipière ERE, quoi, enfin, des filles. Parce qu'il y a, moins cette histoire un peu d'ego qu'on peut retrouver dans une équipe masculine, et c'est... Faut dire que je suis sexiste, hein. Mais il y a un truc qui est vraiment l'amour de la camaraderie féminine à travers le foot.
Ouais.
Et quand on regarde ce film, on se sent vraiment... Enfin, voilà, quoi.
On se sent dedans.
C'est ça, on est avec nos copines.
C'est ça, et c'est pour ça que la façon dont les matchs sont tournés dans l'action... te mettre vraiment dans la tension de l'action, mais pas seulement en tant que spectateur, parce qu'on voit aussi les spectateurs, mais en tant que joueuse aussi, comme si on était du coup la 12e joueuse sur le terrain.
Et ce qui est bien, c'est que contrairement à d'autres films qui reproduisent aussi cette expérience féminine, là, on se concentre pas sur des activités qui sont stéréotypement féminines.
Mm-hmm.
On n'est pas là à se peindre les ongles, à manger du chocolat en regardant une rom-com, ce qui est très bien aussi, qui est aussi l'expérience féminine, c'est mon expérience personnellement.
Mm-hmm.
Mais c'est bien parce que ça montre d'autres pans de l'expérience féminine et de la camaraderie à travers une activité qui est traditionnellement masculine.
Mm-hmm.
Et moi, je trouve ça vraiment bien. Et puis aussi, on peut en toucher deux mots, la musique dans le film, c'est ça, c'est vraiment, on est là, on est avec nos potes et on joue au foot. Et on crache sur nos parents, quoi. Enfin, c'est ça, la vraie expérience de l'adolescence féminine.
Je suis grave d'accord. Et je pense que, du coup, comme le titre de notre partie le dit, c'est un sport populaire. C'est probablement THE sport populaire dans le monde, dans la plupart des pays. Genre, le sport le plus populaire. Parce qu'évidemment, il y a des pays où c'est pas le sport populaire.
Ouais.
Genre...
aux États-Unis, c'est plus le baseball, non?
Ouais, le baseball, le foot américain ou le basket.
Ouais.
Au Japon, c'est le baseball. En Australie, Nouvelle-Zélande, etc., c'est le rugby. Des choses comme ça. Mais de manière générale, dans tout le monde, c'est le sport le plus populaire et c'est un sport populaire. Et c'est là où je pense que les questions de diversité sont hyper importantes. Parce que moi, et peut-être toi, je sais pas, hein, peut-être que t'aimes pas la diversité, mais moi, j'aime la diversité.
Moi aussi, j'aime la diversité.
C'est bien, Inès, c'est courageux de ta part.
Merci.
Mais du coup, c'est ça qui fait l'importance dans le foot, c'est la diversité, et c'est ça qu'on on voit des gens qui peuvent venir de n'importe quel milieu.
On le voit, ouais, dans le film,
on le voit. Dans le film, et de n'importe quelle classe aussi. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour taper dans un ballon dans la rue, en fait.
C'est ça, et en plus, dans le film, le street foot,
est représenté.
Le foot de rue, il a une place qui est importante, parce qu'on le voit, Jess, elle joue au foot avec ses amis dans le parc. Et ça revient aussi dans le film après.
Mmh. Et c'est comme ça qu'elle apprend à jouer. Et, ouais. C'est aussi comme ça que beaucoup de gens apprennent à jouer. Je veux dire, dans des pays, par exemple, comme le Brésil, où c'est vraiment, genre, c'est une religion, le foot. Le street foot, c'est l'origine de plein de joueurs iconiques qui vont dire « Ah oui, tout ça, on le voyait jouer dans la rue. »
Et c'est l'origine de certaines techniques aussi, parce que donc, c'est un jeu qui est un peu plus libre, avec des contraintes différentes, des règles différentes,
c'est
aussi.
C'est ça, c'est différent et c'est beaucoup plus technique dans le sens des genre, les skills, quoi.
Ouais.
Et du coup, ça va être beaucoup plus rapide, ça va être beaucoup plus restreint, parce qu'évidemment, quand on joue dans la rue, c'est pas comme si on jouait sur un terrain de je sais pas combien de mètres carrés. Du coup, t'es beaucoup plus focalisé sur un petit espace, avec un petit espace de jeu. Donc t'es beaucoup plus habile avec tes pieds. Et du coup, pour revenir à la diversité dans laquelle je m'étais perdue, c'est le fait que dans le foot masculin, c'est beaucoup moins un problème. Enfin, quand on voit l'équipe d'Angleterre, comme on est en Angleterre, là, voilà. Quand on parle de l'équipe de France, c'est souvent la critique des racistes. Hein, mais oh là là, où est la diversité blanche de cette équipe?
On est où, là? En Europe ou en Afrique?
Que grande française, j'ai envie de dire.
Bleu, blanc, rouge.
J'ai envie de dire à nos enfants de la patrie, quoi. Non, mais je...
Mais c'est ce que m'ont dit mes demi-frères, là.
Ils
sont coincés en Tunisie, ils m'ont dit, Inès, on en a marre de la Tunisie. Moi, je veux revenir, je veux manger que de la raclette. Il a commencé à me chanter la Marseillaise. Mais il connaissait pas l'air.
Oh, le pauvre.
Du coup, il avait les paroles, mais l'air, il était bancal.
Oh non, pauvre garçon. Du coup, la diversité dans le foot masculin est très importante, mais dans le foot féminin, c'est autre chose. Et surtout, en Angleterre, c'était une discussion qui est très d'actualité, parce que ça fait depuis 2019 que je suis vraiment le foot féminin. Et à chaque compétition qu'il y a eu, les gens, ils ont fait... Elle est très blanche, l'équipe d'Angleterre, quand même.
Ouais.
Ok.
Mais est-ce que c'est parce que déjà, il y a moins de joueuses que de joueurs?
Ben, c'est un problème qui est fait au niveau de l'académie.
Okay.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de joueuses racisées au niveau professionnel anglais, c'est parce qu'il n'y en a pas assez qui sont encouragées à continuer au niveau académique, mm-hmm. quand ils sont jeunes, ou qu'il n'y en avait pas assez de base.
Ouais.
Parce qu'ils ne sont pas facilités. Et du coup, ça, c'est un des grands débats dans le foot féminin anglais. C'est le placement des académies, des écoles de foot, parce qu'elles sont généralement dans des banlieues blanches.
Mm-hmm.
En fait, c'est comme aux États-Unis, c'est pareil. Ils les placent dans des endroits hyper riches, voilà. Et du coup, bah, qui peut aller dans ces clubs?
Mais ça, c'est le paradoxe, en fait, du foot. Parce qu'on dit jeu populaire, mais c'est aussi un jeu qui génère énormément d'argent.
Ouais.
Et des joueurs aussi qui sont quand même... Enfin, pour pouvoir se dédier à une carrière qui est uniquement sportive, il faut savoir soit avoir un énorme talent brut, soit avoir des moyens financiers derrière capables de te soutenir pendant que tu développes tes talents.
Ben, ça dépend, en fait.
Ouais.
Parce qu'en France, c'est pas pareil.
Mmh.
Ok, on a cette chance parce que ça c'est mon flex. Même si je représente pas, je suis pas présidente, tu vois, je suis pas présidente de la FFF. Un truc que j'aime beaucoup en France, dans le foot français, c'est le fait que les académies sont dans des banlieues. Sauf que nous, nos banlieues, c'est pas les banlieues en Angleterre, c'est pas les banlieues aux États-Unis.
Okay.
Elles sont en ville et elles sont dans des banlieues, elles sont dans des petits villages aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des joueuses qui viennent...
Il y a une plus grande diversité, justement.
Exactement. Il y a des joueuses qui viennent du fin fond de la Bretagne, voilà. Mais il y a des joueuses qui viennent...
D'Aubervilliers.
Voilà. Et du coup, évidemment que tu vas pas voir le même type de personnes quand tu mets des académies et des clubs juniors dans ce genre d'endroit que quand tu mets que dans des banlieues blanches. Parce qu'en fait, le problème, c'est que même si les joueuses... Parce que c'est surtout un problème par rapport à la proportion de personnes afro-britanniques en Angleterre, c'est totalement disproportionné. Du coup, genre par exemple, à la dernière Coupe du Monde, il me semble qu'il y avait 3 joueuses noires, et elles sont toutes les 3 métisses, je crois, dans l'équipe d'Angleterre. Et le reste, c'était toutes blanches.
Oui.
En comparaison, il me semble, je sais plus c'est quoi le chiffre exact, mais plus de la moitié de l'équipe de France étaient des femmes racisées.
Parce que quand on dit aussi diversité, il n'y a pas que des joueuses noires aussi. Enfin, je veux dire, il y a d'autres...
Il y a des joueuses nord-africaines.
Oui.
Par exemple, dans l'équipe de France, je veux dire, dans des équipes différentes, mais par exemple, genre aux États-Unis, il y a très peu de joueuses hispaniques. Alors que c'est totalement... Enfin, le foot, c'est un grand élément de la culture...
Latina.
Et que je suis sûre que dans la culture, genre...
Oui, parce qu'en France, qu'on n'ait pas de joueuses brésiliennes ou argentines beaucoup, bah c'est normal parce qu'on n'a pas une grande diaspora.
Voilà, c'est ça.
Mais ouais.
Et je veux dire, et c'est ça où t'as l'impression de... Enfin, personnellement, après, on n'est pas tous dans le même genre d'école, mais nous, on vient de Paris. Quand je vois l'équipe de France féminine de foot ou l'équipe masculine de foot, j'ai l'impression de voir la France dans laquelle j'ai toujours vécu.
Je suis d'accord avec toi.
Et c'est pas genre pour remplir un quota. Les joueuses de l'équipe de France, qu'elles soient de n'importe où en France. Enfin, je veux dire, il y en a qui viennent de Paris, il y en a pas mal qui viennent du Sud.
Oui, parce qu'après, bah, tu les sélectionnes sur leur talent, quoi.
Voilà, c'est ça. Elles sont très fortes. Voilà, elles sont pas. Il y a des joueuses noires, elles sont pas là juste parce que les joueuses noires, on va dire qu'elles sont bonnes au foot.
Ouais.
Non, elles sont là parce qu'elles sont très bonnes au foot. Et je veux dire, certaines.
Et en Angleterre, ce qu'ils font, c'est qu'ils font pas non plus de quotas, ils sélectionnent sur le talent. Mais comme il y a un problème structurel de base,
c'est exactement...
où on n'a pas de joueuses de talent. Racisés parce qu'on leur...
On les a pas formés, en fait. On leur a pas donné l'opportunité d'être formés, voilà. Ouais. Et ben du coup, ben, évidemment, ça se sent quand t'arrives en équipe senior et que t'as personne. Et il y en a très peu. Enfin, je veux dire, il y en a quelques-unes que tu vois jouer en professionnel, mais qui sont pas sélectionnées avec l'équipe d'Angleterre, mais elles existent, voilà. Mais il y en a plusieurs, pas mal, qu'on a vu du coup à la Coupe du Monde, mais qui jouaient pour leurs équipes, l'équipe de leurs parents.
Ouais.
Donc l'équipe de Jamaïque, l'équipe du Nigeria, des choses comme ça, parce que on les considère pas assez bonnes pour jouer pour l'équipe d'Angleterre.
Est-ce qu'il y a des joueuses du coup d'Asie du Sud?
Non. Et voilà, c'est là où je veux en venir dans la discussion, c'est que même aujourd'hui, alors que ce film quand même c'est un classique, voilà, malheureusement ça n'a toujours pas changé, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a quasiment aucune, j'ai fait ma recherche, en tout cas je suis basée sur l'Angleterre, il y a presque aucune joueuse. En tout cas, la première ligue, la Women's Super League en Angleterre, il n'y a pas une seule joueuse indo-britannique.
Ok.
Il y a une joueuse qui est australienne, qui est un quart indienne, c'est une des stars de la ligue.
Ok.
Du coup, Sam Kerr. Mais elle est considérée plus australienne qu'autre chose. Voilà, genre les gens, ils peuvent faire « Ah, je savais même pas qu'elle était d'origine indienne ou quoi. » Et voilà, et à part ça, il y en a 4 dans la deuxième ligue, dans la deuxième division, et c'est tout. Enfin, il y en a probablement d'autres dans les ligues inférieures, mais je veux dire, dans les deux premières ligues, celles qui sont télévisées, il y a que ça. Et du coup, ça fait une joueuse qui est australienne, du coup, qui est même pas anglaise, qui est là, genre
grandement. Alors que ce film, il a 20 ans, quand
même. Alors que ce film, il a 20 ans et ça n'a pas changé. C'est dommage, parce que là, dans le film, j'ai fait attention, du coup, quand je l'ai revu hier soir. Il y a une joueuse de l'équipe, on la voit jamais parler, mais elle est en arrière-plan, qui est d'Asie de l'Est.
Oui, il me semble que j'ai...
Oui, et du coup, il y a Jess, et c'est tout. Et encore, le film, il y a limite plus de diversité. Il y a deux femmes noires dans leur équipe, au moins.
Et la capitaine.
Et la capitaine, Mel, du coup.
Et là, dans le film, donc, on a une équipe qui est quand même assez diversifiée.
Ouais, même si elle est majoritairement blanche, mais en même temps... On se dit quand même, l'équipe, c'est que des vraies joueuses.
Ouais.
Donc, ils devaient travailler avec ce qu'ils avaient à cette époque-là, qui était plus diversifié que maintenant, en fait. Et c'est ça qui est un peu ironique. C'est-à-dire que au début des années 2000, il y avait plus de diversité dans leurs équipes qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a des joueuses iconiques, comme Rachel Yankee, qui a joué pour Arsenal, c'est pour ça que, voilà. Mais ça, ça s'est un peu perdu à un moment. Et c'est triste, je veux dire, ça revient toujours. Parce que quand j'ai regardé l'euro féminin, du coup, hein, tu voyais que à part l'équipe de Portugal était assez diversifiée, la Suisse pas mal aussi, les autres...
La Suisse
était pas mal, ouais. Je pense que comme c'est...
Après la Suisse, tu sais, à part des montagnes Yodelaikihu et des montres, j'imagine pas trop de gens qui y vivent, donc...
Ouais, bah c'est des gens riches, quoi. Mais je veux dire, il y avait quand même quelques joueuses, il y a des joueuses noires, il y a aussi des joueuses maghrébines, je crois, au moins une. En tout cas, il y a un peu de diversité quand même, on s'y attend pas forcément, mais voilà, c'était agréable. Au Portugal aussi, là aussi, on s'y attend un peu plus, mais voilà. Mais le reste, il y en a, c'était zéro, hein. Et du coup, on est vraiment une rareté, la France, au niveau du foot international.
Et c'est notre fierté.
Et voilà, et je veux dire, c'est les stars. Enfin, je veux dire, une des plus grandes stars du foot féminin, c'est Wendy Renard. C'est une joueuse antillaise.
Je connais ce nom.
Voilà, ça veut dire beaucoup.
Exactement.
Donc, c'est la capitaine de l'équipe de France, c'est une joueuse antillaise.
Oui, elle et l'autre blonde, là.
Eugénie Le Sommer.
Exactement.
Voilà, elle qui est bretonne, du coup. Ça aussi, c'est la diversité. Mais je veux dire, oui, dans nos stars, et c'est partout sur le terrain.
J'ai envie de faire une blague, parce que du coup, elle est bretonne. Et l'autre, c'est le renard, et j'entends le loup, le renard.
C'est drôle, ça.
Ouais. J'arrivais pas à bien la formuler, mais...
C'est pas grave. Moi, j'ai bien aimé la blague.
Merci.
Et moi, je m'inquiète, je me dis, ça va changer. Mais du coup, je regarde les compétitions, genre U20, U17, tout ça, toujours pareil. Et ça me fait plaisir. Genre vraiment, parce que, on se dit, le club le plus connu en France, si on enlève le féminin, c'est le PSG. Et le PSG entraîne énormément de jeunes. Ouais. Et il est où, le PSG ? Il est à Paris.
Exactement.
Ça attire quel genre de jeunes, du coup ? Ça attire des gens qui habitent à Paris. Paris, une ville très diversifiée.
Ouais.
Et du coup, les jeunes qui sont entraînés au PSG, c'est des gens qui ressemblent à des gens qui vivent à Paris. Et du coup, ça se voit chez les jeunes, parce que c'est des gens qui vont être entraînés à Paris ou à Lyon, du coup.
Après, parce qu'aussi, la France de Paris, c'est pas la France de La Roche-sur-Yon, quoi. C'est pas...
Oui.
Voilà.
Mais je veux dire que les gens de La Roche-sur-Yon auraient quand même la possibilité. Et c'est où le système est meilleur. On n'est pas en train de faire du racisme anti-blanc, on discrimine contre les petits paysans, quoi. Parce que, comme j'ai dit, il y a des meufs de l'équipe de France qui viennent de petits patelins en province, hein, je veux dire. Il n'y a pas que dans les banlieues parisiennes qu'on apprend à jouer au foot. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il y a autant en Angleterre.
Même pas du tout.
Non, parce que du coup, c'est ce que les gens ils disent. Enfin, il y a des joueuses noires, du coup, anglaises, qui disent que elles ont failli arrêter le foot. Parce que leurs parents n'avaient pas le temps de tout le temps les emmener à un club de foot qui était à une heure en voiture.
C'est un peu comme dans Billy Elliot, tu sais, où ils doivent conduire, enfin, c'est galère et tout, tu sais, ils doivent monter une expédition pour qu'il aille au conservatoire.
Ben voilà, c'est un peu ça. Et du coup, là, on parle du coup aussi de classe, parce que les gens qui vont habiter dans ce genre d'endroit, c'est pas juste des blancs, c'est aussi des gens plus riches. Mmh. Et ça se voit aussi, genre, même si, bon, évidemment, pas tout le monde dans l'équipe d'Angleterre est... Dépendant de quelle région du pays ils habitent, au nord c'est différent qu'au sud, ça va être des gens très poches, dans le sens de...
Victoria Beckham.
Voilà, pas dans le sens de poche de veste, quoi.
Poche le sac.
Poche le sac.
Si on habite dans le sud de la France.
C'est vrai. Mais du coup, genre, c'est pas la même chose, mais je veux dire, les endroits où il y a plus de diversité, ben, c'est des meufs blanches, richos, qui peuvent jouer, et pas les autres. Et c'est là où c'est dommage. Et du coup, dans ce film, moi, je suis triste que même aujourd'hui, alors que, voilà, comme j'ai dit, c'est un film iconique, ça n'ait pas changé par rapport à l'Angleterre. En France, ça a changé, parce qu'avant, c'était beaucoup plus blanc. Mais il y a eu...
Mais je suis pas sûre que ce soit grâce à ce film que ça ait changé en France.
Non, je pense pas.
Non, mais voilà.
Je pense que le système a changé à un moment, et qu'avec la Coupe du Monde 98... Ça a encouragé plus de gens à envoyer leurs enfants, filles et garçons, à jouer. Et que, du coup, ça a eu un effet domino, genre, qui est préparé, genre, depuis des décennies. Et du coup, c'est
donc
pour ça
qu'on voit les résultats aujourd'hui.
Exactement. Mais du coup, pour conclure sur la diversité, Voilà, c'est tout. Je trouve ça dommage que ça ait pas eu un impact, en tout cas, sur la diversité dans le foot anglais, vraiment. Enfin, en tout cas, pas un impact qui est visible aujourd'hui.
Et sinon, pour revenir sur des conceptions un peu plus générales sur le film...
Moi, j'ai envie de juste te dire que... C'est un peu ce que tu as mentionné avant par rapport au fait que c'était très 2000. Moi, je trouve que le film... bon, il est très... Il y a des moments, c'est très 2000, quoi. C'est un peu cheesy. Mais visuellement, il y a des trucs très beaux, quand même.
Ouais.
Genre, je trouve
que... Surtout pendant, justement, le match de foot.
Les matchs de foot. Parce qu'en fait, on est sur des plans très proches, genre voilà, comme on a dit dans le cours de l'action. Ouais. Mais il y a des plans, du coup, avec une focale très courte, du coup, des plans très larges. Et avec le ciel qui est une couleur genre toute acidulée à cause de la pellicule et la lumière qui est cramée.
Et l'herbe qui est très verte aussi.
C'est ça. Et du coup, cet aspect-là avec la pellicule, tout ça, je trouve que le film est tellement de son temps, mais je trouve ça très beau. Et je pense que les gens à l'époque, ils feraient « ouais, c'est moche ». Peut-être.
Mais je trouve que ça donne un aspect intemporel.
Je suis bien d'accord. Et je trouve que c'est très beau. Genre vraiment, je trouve qu'au niveau des couleurs, c'était très beau. Les plans de nuit dans les trucs de foot... À cause du coup de cette pellicule et du coup des lumières qu'on voit autour, genre voilà, je trouvais que c'était très beau.
Je suis d'accord.
Et genre pas pour faire ma meuf arrogante école de cinéma, tout ça, pour dire oui, la pellicule, c'est meilleur. Mais du coup là, je trouve que ça se prête vraiment bien au film.
Moi, je trouve que c'est vraiment bien quand on sent qu'il y a un plateau qui a été construit derrière.
Même si le plateau, il est cheap. On regardera Princess Bride, tu l'as pas vu ?
Non.
Dans Princess Bride, les plateaux sont vraiment genre, il y a 20 cm de plateau, derrière il y a une peinture, les rochers ils sont en polystyrène.
Mais non, mais moi je trouve ça bien, parce que tu peux visiter, tu te sens qu'il y a de l'amour qui est
construit quand même. En fait, t'as l'impression que tu vois à quel moment le cinéma est hérité du théâtre.
Ouais.
Et je trouve que du coup, c'est toujours vivant. Alors que quand tu vois que tu t'imagines l'acteur tout awkward devant son écran vert, c'est pas pareil.
Surtout aussi, quand t'as le plateau de tournage qui est créé et qui est bien fait, je pense que ça facilite le travail de l'acteur. Mais pour rentrer dans ton rôle.
Exactement.
Parce que quand t'es en pyjama avec des points partout et que derrière un écran vert et t'as la caméra devant, tu vois, on critique beaucoup le MCU, mais je pense, et on peut critiquer même les performances des acteurs du MCU, mais il y a quelque chose à dire que leur travail est peut-être plus difficile.
Oui, et c'est là où ça se voit que Marvel, ils s'en foutent de leurs grands acteurs.
Oui,
et du coup, dans ce film-là, on sent qu'on est à Londres, dans un vrai truc, pour revenir un peu sur la première partie où on parlait
du quartier.
On se sent vraiment dedans. Et du coup, quand on est sur le terrain de foot, on sent aussi qu'on est vraiment sur un terrain de foot. Et des plein de choses comme ça. Enfin, il y a vraiment une réalité qui sort du film. Et ça, c'est très agréable visuellement. Et c'est très fun. Genre, même si, du coup, il y a des trucs qui sont peut-être un peu exagérés, probablement, genre, par le montage, genre, tout est plus rapide, etc. À l'image, ça nous sort pas du tout du film, parce qu'on voit des trucs très vrais. Au niveau des émotions des personnages aussi, enfin... C'est vraiment... Très beau à la fois dans sa simplicité, dans les plans où c'est plus simple, et dans les moments où il y a plus de couleurs, etc. Enfin, je trouve ça vraiment très beau.
Et la saturation comme ça de l'image est très 2000.
Ouais.
Mais moi, j'aime trop.
Moi aussi, je suis très fan. Même si je pense qu'il y en a qui considéreraient ça pas particulièrement quoi que ce soit.
Oui.
Mais en même temps, c'est un truc de nostalgie, évidemment, parce qu'on regarde un film 2000, on est là genre... Ouh, les années 2000.
Ouais, c'est notre enfance. Même si ce film, c'est pas personnellement mon enfance, mais ça fait référence à des choses que j'ai vues.
Voilà, moi c'est mon enfance, du coup, la nostalgie qui en fait partie.
Ouais.
Je pense qu'il y a des fois, on réalise pas. On se dit, ok, c'est un film moyen, mais c'est un film fun, et on va jamais chercher le travail technique qui est fait derrière.
Non, parce que ce film, moi je trouve que dans son genre, qui est un genre assez spécifique, mais dans son genre, il est très bien fait. Que ce soit au niveau des dialogues, au niveau de la caractérisation, au niveau de l'image, au niveau de la bande-son, je pense que c'est très bien fait.
Oui,
maintenant, il y a des points de critique qu'on aborde dans la version complète. Évidemment, on va pas... aucun film n'est parfait et celui-là l'est pas. Mais je pense que c'est un bon film.
Je suis d'accord.
Un très bon film.
Et je suis ravie que tu aies apprécié, vu que c'est moi qui t'ai obligée à le regarder.
Oui.
Je peux pas dire la même chose sur certains des films que toi, tu m'as demandé de regarder. Rouge Ruby notamment.
Mais je t'ai prévenue.
Tu m'as prévenue, ouais, mais...
Et justement, je pense que là, c'est le moment de se quitter.
De se quitter.
Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés.
Ce n'est qu'un au revoir.
Et ce n'est qu'un au revoir parce qu'on se retrouve dans 2 semaines cette fois-ci. Même jour, même heure, pour parler cette fois-ci d'un double feature. Donc, on va faire... 2 films en un épisode. On va comparer
The Mortal Instrument et Rouge Ruby,
qui sont des films
fantastiques pour ados,
Et si entendre parler de Bandit Like Beckham vous a plu, on se retrouve tout de suite dans la version complète. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines cette fois-ci.
Je vous jure, je parle pas de foot comme ça.
Mais on en reparlera la semaine de Ted Lasso. Bisous, bisous.
Bisous.